إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous continuons la lecture des hadiths de notre prophète صلى الله عليه وسلم mentionné par al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Les Jardins des Vertueux au chapitre sur l'exposé de la diversité des voies de bien. Le cinquième hadith est rapporté par Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. On voit dans ce hadith une autre voie parmi les voies de bien et un autre moyen parmi les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est très simple pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith de ne mépriser aucune bonne action. Lorsqu'on parle de multiplier les bonnes actions, certaines personnes s'imaginent que les bonnes actions se limitent aux grands efforts fournis dans l'adoration. Ils pensent immédiatement que cela nécessite forcément de passer ses journées à jeûner, ses nuits à prier, à lire le Coran ou autre chose semblable. Alors que, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, et comme on le voit une fois de plus dans ce hadith, il y a des actions qui sont très simples à accomplir et qu'il ne faut pas mépriser car elles permettent aussi de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, tu ne sais pas quelle est l'action qui sera la cause du pardon de tes péchés et de ton entrée au paradis. Tu ne dois donc rien mépriser parmi les œuvres de bien, aussi minimes soient-elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Ceci est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines personnes qui ont toujours un visage fermé, un visage renfrogné. Ils ne sourient pas. Et ils se privent ainsi de cette bonne action, si simple à accomplir, qui est de rencontrer ton frère ou ta sœur avec un visage souriant. Il est légiféré pour toi de sourire lorsque tu rencontres ton frère musulman. Et à plus forte raison, il est légiféré pour toi d'avoir un visage souriant dans ton foyer, de sourire à ton épouse, de sourire à tes parents, de sourire à tes enfants, à tes oncles, tes tantes, et ainsi de suite. Ceci est le minimum de la bienfaisance envers eux, d'avoir un visage souriant. Et en faisant cela, tu te rapproches de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous ne devons rien mépriser parmi les bonnes actions. Ne méprise aucune bonne action. Parmi les choses qui m'ont marqué, dans les assises du grand savant, le Cheikh al-Haydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qui est un des grands savants de notre époque. Je me souviens que lors de ses assises, il arrivait toujours avec un visage souriant. Et il gardait son sourire au visage du début de son assise jusqu'à la fin de l'assise, et même en partant, il avait encore le sourire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et ceci nous montre que nos savants, ils s'appliquent à mettre en pratique les orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, avoir un visage souriant fait partie des bonnes actions par lesquelles le croyant se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour où le soleil se lève, l'homme est redevable d'une aumône pour chacune de ses articulations. Ceci est semblable à ce que l'on a vu dans un hadith précédent, que chaque jour tu es redevable d'une aumône pour chacune de tes articulations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith différentes œuvres qui sont des aumônes te permettant de t'acquitter de cela. Il a dit: établir la justice entre deux personnes est une aumône. Deux personnes sont en conflit, tu réconcilies entre eux en établissant la justice entre eux. Ceci est une aumône. Aider un homme à monter sur sa monture ou à charger ses bagages sur celle-ci est une aumône. S'il y a une personne, par exemple, qui a des difficultés à monter en voiture, dans le bus ou autre, le fait de l'aider à monter
dans ce moyen de transport ou sur cette monture, ceci est une aumône. Ou alors s'il a des bagages à monter sur celle-ci, tu l'aides en portant ses bagages. Ceci également est une aumône par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la bonne parole est une aumône. La bonne parole. Le fait de dire des paroles plaisantes à tes frères et sœurs, à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, ceci est une aumône. Tout ce qui te permet de faire entrer la joie dans le cœur d'un croyant ou d'une croyante fait partie des aumônes par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela la bonne parole. Ceci également est une bonne action qu'il ne faut pas négliger car c'est une chose simple. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, chaque pas que tu fais en direction de la mosquée est une aumône. Chaque pas. Chacun de ces pas que tu fais lorsque tu te diriges à la mosquée, c'est une aumône. Et retirer un objet gênant de la route est une aumône. On a déjà vu cela dans le cours d'hier. Le fait de retirer un objet gênant, quel qu'il soit, ceci est une aumône. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, nous dit, et Muslim rapporte aussi la narration de Aisha, radiyallahu ta'ala anha, c'est-à-dire un hadith semblable rapporté par Aisha, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on a créé tout homme parmi les enfants d'Adam avec 360 articulations. Celui qui proclame la grandeur d'Allah, qui fait le takbir en disant Allahu Akbar, qui loue Allah, qui dit Alhamdulillah, qui dit La ilaha illallah, qui dit Subhanallah, qui implore le pardon d'Allah, qui dit Astaghfirullah, ou alors qui écarte une pierre, une épine ou un os du chemin des gens. Médite bien sur ce qu'il dit ici, une pierre, une épine ou un os. C'est-à-dire, même si c'est une petite chose, le fait de le retirer du chemin des gens. Ceci est une bonne action. Ordonne le bien ou interdit le mal, atteignant ainsi le nombre de 360, c'est-à-dire 360 actions, s'acquittant ainsi des 360 aumônes desquelles il est redevable pour chacune de ses articulations. Il avance alors ce jour-là en s'écartant de l'enfer. Allahu Akbar. Tu vois que ces actions qui sont simples, et qui peuvent paraître pour certaines personnes comme insignifiantes, ce sont des actions par lesquelles tu t'écartes du feu de l'enfer. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa récompense et de son paradis, et tu t'écartes de son châtiment et du feu de l'enfer. Par ces simples paroles à prononcer avec ta langue. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Toutes ces paroles, elles permettent de te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose simple à faire pour le croyant. Tu vois donc que le chemin vers le paradis nous a été facilité en réalité. Tu vois une pierre sur le chemin qui gêne les gens, tu l'enlèves. Tu vois une épine ou un os, tu le retires. Et ainsi tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, a ensuite mentionné un autre hadith, rapporté également par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se rend à la mosquée, en début ou en milieu de journée, Allah prépare pour lui au paradis un repas pour l'honorer à chaque fois qu'il s'y rend, matin ou soir. » Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Celui qui se rend à la mosquée le matin pour la prière d'Al-Fajr, ou en milieu de journée pour la prière du Dhuhr ou de l'Asr, ou de manière plus générale, quelle que soit la raison pour laquelle il se rend à la mosquée, que ce soit pour la prière, ou pour la recherche de la science, pour aller assister à un cours ou à une conférence, ou autre chose parmi les œuvres de bien, pour nettoyer la mosquée, pour participer à un acte de bienfaisance en celle-ci, ou autre chose semblable. Pour ce trajet qu'il fait en direction de la mosquée, matin ou soir, Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour lui au paradis ce que l'on a traduit par un repas pour l'honorer. Le mot en arabe, c'est un nuzul. Et un nuzul, cela désigne ce qui est préparé pour l'inviter comme nourriture ou autre, afin de l'honorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prépare cela pour ce serviteur qui se rend à la mosquée matin ou soir, un repas pour l'honorer au paradis. On voit donc à travers ce hadith qu'il y a une récompense immense à se rendre à la mosquée. Et on voit également à travers cela la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Car pour des œuvres aussi simples, il te donne des récompenses immenses. Simple fait de te rendre à la mosquée. Pour chaque pas, tu as une aumône. Pour chaque pas, tu as une bonne action, des péchés pardonnés. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare un repas pour t'honorer au paradis. Donc on voit à travers cela que le simple fait de se rendre à la mosquée fait partie des bonnes actions par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant est également rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô femmes musulmanes, ne méprisez aucun cadeau que vous pouvez faire à votre voisine, pas même un sabot de mouton. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam encourage à faire des cadeaux à ses voisins, même si c'est une chose minime. Il dit dans ce hadith même un sabot de mouton, c'est-à-dire que c'est une chose qui pour beaucoup est insignifiante, voire même peut-être méprisable. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne cette orientation afin de nous faire comprendre que nous ne devons rien mépriser parmi les œuvres de bien. Comme on a vu, aussi minime soit-elle, tu ne sais pas quelle est la bonne action qui sera la cause du pardon de tes péchés et de ton entrée au paradis. Alors ne méprise rien. Toute bonne action qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es en mesure d'accomplir, alors fais-le. Et ne la méprise pas. Ne dis pas, non, ceci ne sert à rien, ceci n'a aucun intérêt, ceci n'a pas d'utilité, ou autre chose semblable que le diable pourrait te suggérer afin de t'écarter de la voie du bien. Ne méprise rien parmi les bonnes actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque tu cuisines une sauce, alors rajoute de l'eau afin de pouvoir en offrir à tes voisins. » Le simple fait de donner de la sauce à ses voisins, c'est une chose pour laquelle tu es récompensé. Le musulman, il ne doit donc pas mépriser ses œuvres de bien. D'autant plus que ceci, en pays de mécréance, peut être une cause pour montrer aux gens la beauté de notre religion. En effet, si les musulmans mettaient en pratique toutes ces orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et étaient bienfaisants envers leurs voisins comme il se doit, il n'y a pas de doute que nombre de personnes entreraient dans cette religion. Et certes, ceci a été la cause de l'entrée de beaucoup de gens en islam. Walhamdulillah. Et c'est pour cela, comme on a dit, qu'il ne faut rien mépriser parmi les bonnes actions. Il se peut qu'une action paraisse pour toi au départ comme insignifiante, mais que celle-ci soit par la suite la cause de récompenses immenses. Imagine que tu commences à simplement offrir quelques plats, quelques présents à tes voisins, et que par la suite ceci soit la cause pour ouvrir leur cœur à la religion de l'islam. Ceci serait pour toi une récompense immense. C'est un bien immense, meilleur que tous les biens de ce bas monde, d'être la cause de l'entrée en islam ne serait-ce que d'une seule personne. Donc comme on l'a vu, dans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Tout ce qui te permet de faire entrer la joie dans le cœur de ton frère ou de ta sœur parmi les musulmans, alors ceci est un bien pour lequel tu es récompensé. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith, également rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi est composée d'un peu plus de 70 branches, ou un peu plus de 60 branches. La plus méritoire d'entre elles est la parole « La ilaha illallah ». Et la plus basse est le fait de retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc très clairement dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la foi n'est pas composée d'une seule branche, mais elle est composée de nombreuses branches, un peu plus de 70. Et le mot employé en arabe est bid'un, qui signifie un chiffre entre 3 et 9, c'est-à-dire entre 73 et 79 branches. Et la plus méritoire de ces branches, c'est la parole « La ilaha illallah », la parole du tawhid, cette parole immense par laquelle la personne sort de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Cette parole, qui si elle est prononcée avec sincérité et véracité, sera la cause de l'entrée au paradis de la personne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos derniers mots soient « La ilaha illallah », car celui dont les derniers mots dans ce bas monde sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. Il ne faut pas penser que ceci est une chose simple. Et pour ce faire, il faut t'habituer à la prononcer dès maintenant. Car la personne meurt sur ce quoi elle vit. Si la personne n'est pas habituée à prononcer cette parole, alors il est peu probable qu'elle la prononce au moment de sa mort. Si celle-ci est habituée à prononcer des futilités, ou pire encore, des grossièretés ou autre chose encore, c'est peut-être ces choses-là qu'elle dira au moment de sa mort et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Mais celui dont la langue est habituée au rappel d'Allah, à prononcer cette parole « La ilaha illallah », à prononcer du dhikr, à lire le Coran, alors il est fort probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite et que ses derniers mots soient « La ilaha illallah ». Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Quoi qu'il en soit, cette parole, c'est la plus méritoire et la meilleure des branches de la foi. Et la plus basse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est de retirer un objet gênant de la route. Comme on a vu, tout ce qui peut gêner les passants, que ce soit une pierre, une épine, une branche, des morceaux de verre ou autre chose semblable, il est légiféré de le retirer de la route. Tout ce qui peut causer du tort aux passants. Les gens de sens ont dit même s'il y a un trou, le fait de le boucher, de boucher ce trou afin que personne ne trébuche dedans. Ceci également est une bonne action. Et cela fait partie de la foi et des œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et la pudeur est une branche de la foi. » La pudeur, c'est un comportement qui va pousser la personne à s'écarter de tout ce qui est honteux. Et ceci est un trait de caractère qui est louable et qui faisait partie des traits de caractère de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc légiféré pour le croyant de faire preuve de pudeur, de ne pas être sans gêne, comme le sont certaines personnes. Car celui qui n'a pas de pudeur, il n'aura pas de gêne à faire des choses honteuses, même devant les gens. Il n'aura pas de gêne à commettre des péchés, à faire des actes desquels il devrait s'éloigner. Comme il est venu dans un autre hadith, « Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. » C'est-à-dire que celui qui n'a pas de pudeur, il ne se soucie pas de savoir si ce qu'il fait est bon ou mauvais. Mais il agit comme bon lui semble. Il suit ses désirs et ses passions, sans aucune gêne, Wallahu al-musta'an. Alors que celui qui fait preuve de pudeur, il aura de la retenue. Il sera gêné. Il fera attention à ses faits et gestes, à ses paroles, et ainsi de suite. Et ceci le poussera à ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et à s'écarter de toute mauvaise action et de tout péché. Toutefois, il est nécessaire de souligner que la pudeur est louable, mais que le croyant ne doit pas avoir honte de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 53 de Surat al-Ahzab, « Wallahu la yastahyi min al-haq » Allah n'a pas de pudeur quant à la vérité. C'est-à-dire que le croyant, il ne doit pas être gêné de la vérité. Il ne doit pas être gêné de prononcer la parole de vérité. Il ne doit pas être gêné de mettre en pratique sa religion. Il ne doit pas avoir honte de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il ne doit pas avoir honte de mettre en pratique la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas avoir de gêne à ce sujet. Car la vérité, tu n'as pas à en être gêné. Au contraire, tu dois être fier de la mise en pratique de la vérité. En dehors de cela, la pudeur est une chose louable et demandée du croyant. Et c'est une chose par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant est aussi rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est un hadith immense dans lequel il nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'un homme marchait sur un chemin, il fut pris d'une grande soif. Il trouva alors un puits dans lequel il descendit et but de son eau. Puis il en sortit et il vit un chien haletant, léchant la terre tellement il avait soif. L'homme dit alors « Ce chien souffre de la soif tout comme j'en souffrais. » Il descendit alors à nouveau dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et remonta en la tenant avec sa bouche jusqu'à ce qu'il arrive en haut et abreuva ce chien. Allah le rétribua alors en lui pardonnant ses péchés. À l'écoute de ce récit, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont dit « Ô messager d'Allah, avons-nous une récompense pour le bétail, c'est-à-dire pour la bienfaisance envers le bétail, lorsque nous les nourrissons, lorsque nous les abreuvons ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit
il y a une récompense pour tout bien fait à tout être vivant. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et dans une autre narration, rapportée par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'a rétribué en lui pardonnant ses péchés et en le faisant entrer au paradis. Allahu Akbar. On voit que le fait d'abreuver ce chien qui avait soif a été la cause du pardon de ses péchés et de son entrée au paradis. Et dans une autre narration rapportée également par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis qu'un chien mourant de soif tournait autour d'un puits, une femme de mauvaise mœurs parmi les enfants d'Israël le vit. Elle retira alors sa chaussure, qu'elle remplit d'eau, et abreuva ce chien. Alors, elle fut pardonnée en raison de cet acte. On voit à travers ce hadith que les voies de bien sont nombreuses. Et parmi celles-ci, il y a la bienfaisance envers les animaux. Regardez cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ici. De cet homme qui marchait sur un chemin, qui était peut-être en voyage, et qui fut pris de soif. Il descendit alors dans un puits pour boire de l'eau. Et lorsqu'il en sortit, il vit ce chien, en train de lécher la terre tellement il avait soif. Lécher la terre humide, afin de s'hydrater, afin de pouvoir profiter de l'humidité qui se trouvait dans cette terre. L'homme comprit alors que ce chien souffrait de la soif tout comme lui en souffrait. Il redescendit alors dans le puits, remplit sa chaussure d'eau, et la prit dans sa bouche pour remonter et sortir du puits. Puis une fois sorti du puits, il abreuva ce chien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le rétribua pour cette œuvre. Il lui pardonna ses péchés et le fit entrer au paradis. Voyez une fois de plus que les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Est-ce que ceci est une chose compliquée à faire? Est-ce que ceci est une chose qui demande de grands efforts? En ces périodes de grande chaleur, si tu vois un animal assoiffé, le fait de lui donner de l'eau est une chose simple. Et si tu as une bonne intention, ceci peut être une cause pour te faire pardonner tes péchés et entrer au paradis. Et ceci nous fait penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Et il en est de même pour le feu de l'enfer. » C'est-à-dire que par une œuvre simple, il t'est possible de te faire pardonner tes péchés et d'entrer au paradis. Et inversement, une personne peut commettre une action qu'elle pense insignifiante parmi les péchés et les mauvaises actions. Et entrer en enfer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et on a vu donc dans ce hadith que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont étonnés. Et étant donné qu'ils désiraient la science, qu'ils désiraient connaître les voies de bien, connaître les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin, comme on l'a dit dans un cours précédent, de pouvoir les mettre en pratique. Leur objectif n'est pas simplement de savoir, mais ils veulent savoir pourquoi. Pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils avaient une récompense pour le bétail, pour la bienfaisance envers le bétail, le fait de les nourrir, le fait de les abreuver, de s'occuper d'eux et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors qu'il y a une récompense pour tout bien fait à tout être vivant, que ce soit un chien, un chat, un mouton, un oiseau, ou tout autre être vivant. Regardez cet homme qui a simplement donné à boire à un chien une seule fois. Il ne l'a pas fait tous les jours. Il l'a fait une seule fois. Ceci fut la cause du pardon de ses péchés et de son entrée au paradis. Car s'il ne lui avait pas donné à boire, peut-être que ce chien serait mort. Il a donc ainsi préservé sa vie. Et c'est pour cela que cela contient une récompense immense. Et médite sur l'autre narration qui est rapportée de ce hadith concernant cette femme de mauvaise mœurs parmi les femmes des enfants d'Israël. Une femme qui commettait des turpitudes. Lorsqu'elle vit ce chien tourner autour du puits, en raison de la soif, et qu'il n'avait pas les capacités d'atteindre l'eau, alors elle a retiré sa chaussure, qu'elle remplit d'eau, afin d'abreuver ce chien. Et ceci fut la cause du pardon de ses péchés. Médite sur cela. Malgré les graves péchés qu'elle commettait, ceci fut la cause du pardon de ses péchés. Ceci est donc une preuve claire et évidente que la bienfaisance envers les animaux comprend une récompense immense. Toute bienfaisance à l'égard des animaux, que ce soit en les nourrissant, en les abreuvant, en les protégeant de la chaleur, en les protégeant du froid, que cet animal t'appartienne ou que ce soit un animal errant, ou qu'il appartienne à une autre personne, alors tu es récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bienfaisance envers cet animal.
Et si telle est la récompense de la bienfaisance envers les animaux, que dire de la récompense de la bienfaisance envers les hommes? Il n'y a pas de doute que la récompense est d'autant plus grande. Si tu offres de l'eau à des personnes qui ont soif, ou alors, tout simplement, lorsque tu sers de l'eau à tes enfants, tu es récompensé pour cela. Ceci est un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus, s'ils sont petits et qu'ils ne sont pas en mesure de se servir seuls, ou de boire seuls, ou de manger seuls. Tu vois donc, comme on l'a vu hier, que celui qui est attentif à cela, et qui n'est pas plongé dans l'insouciance, il peut être en adoration du matin au soir, de son réveil jusqu'à son coucher, et même en dormant, il peut être en état d'adoration. Comment? Simplement en ayant de bonnes intentions, en purifiant ses intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de ses faits et gestes. Même lorsque tu dors, si tu dors avec l'intention de te reposer, afin d'être en forme pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala le lendemain, alors tu es récompensé pour ton sommeil. Le croyant doit donc méditer sur cela, afin de ne pas se priver de ces nombreuses récompenses qu'il lui est possible de récolter chaque jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'être en vie afin de continuer à prendre ses provisions pour l'au-delà. Et certes, combien d'œuvres qui paraissent parfois minimes sont immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de l'intention de leur auteur. Et inversement, combien d'œuvres immenses comme la prière, le jeûne et ainsi de suite peuvent devenir insignifiants ou poussière éparpillée en raison de l'insouciance de leur auteur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et on verra la suite des hadiths dans le cours de demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم